Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast « Ministre et pilote, mais pas que ». Je m'appelle Cyrielle Ariel, je suis auteure et journaliste d'impact spécialisée dans la RSE et le développement durable. Le but de ce podcast est de vous faire découvrir un portrait plus intimiste de nos leaders d'opinion, une personnalité publique ou politique, un dirigeant ou un entrepreneur. Ils ont tous un point commun. Un parcours inspirant, juché de réussite, de challenge, mais aussi d'échecs. Nous vivons dans une société trépidante, souvent l'idée représentée par des acteurs que nous connaissons uniquement via leur visage médiatique. Ici, je vous propose de les découvrir autrement, intimement. Bienvenue dans « Ministre et pilote, mais pas que ». Et pour ce nouvel épisode, je suis ravie d'accueillir Jean-Baptiste Djebari.
Bonjour
Jean-Baptiste, merci beaucoup d'être avec nous. Alors aujourd'hui, tu es président de Opium, cette start-up, c'est ça, qui va notamment commercialiser une voiture hydrogène à horizon 2025 ?
Exactement, et qui a été exposée au salon de l'auto la semaine dernière, non loin d'ici, et qui a, je crois, rencontré un grand succès.
Tu es également donc l'ancien ministre des Transports, c'est surtout sous cette casquette que les Français te connaissent. Et puis les jeunes te connaissent, je pense, surtout par le biais de TikTok. Alors, on a un point commun, hein, c'est que tu es originaire de Seine-et-Marne hein, et tu es né à Melun, donc pas très loin de Fontainebleau.
Absolument.
Voilà.
On en a déjà parlé.
40 ans et deux enfants. Alors, de manière très concrète, à quoi ressemblait ton enfance ?
Donc moi, j'ai été à Melun pendant 17 ans, famille de 4 enfants, d'origine modeste sur le plan financier, mais exigeante, cette famille, sur le plan des études, des résultats scolaires, des activités culturelles, sportives, etc. Et c'est assez marrant parce que du coup, je continue à voir mes frères et sœurs.
Ils font quoi aujourd'hui ?
Ils font pas mal de choses différentes. J'ai une sœur qui est chercheuse en ethnomusicologie, c'est un peu pointu. Je reviendrai ici en parler pendant au moins 2h30. J'ai un frère qui est dans la logistique. Et j'ai une autre sœur qui s'occupe de parcs, de Center Park, voilà, qui les digitalise.
C'est le groupe Pierre et Vacances, de mémoire.
Exactement, c'est le groupe Pierre et Vacances. Donc, ils font des choses très différentes. Et donc, enfance heureuse à Melun. Et puis après,
tu
chacun s'est
appelé. Comment ça s'est passé alors, toi ?
Moi, je rêvais d'être pilote.
Et pourquoi ? Tu as regardé Top Gun ?
Ah oui, mais je ne crois pas que c'était pour ça. Et par ailleurs, à l'époque, je pensais que les normes médicales étaient tellement strictes que moi, j'avais un peu d'hypermétropie sur un de mes yeux et je pensais que ce n'était pas possible. Et puis en 2003, les choses se sont ouvertes, les normes se sont un peu assouplies. Et là, j'ai pensé que je pouvais être pilote et j'ai été pilote, effectivement, quelques années plus tard. Pourquoi, j'imagine, le rapport à la liberté, le rapport à la technologie, tout ce qui, en fait, m'anime encore, toujours maintenant. J'adore, je continue de voler. Comme tu le sais, et j'essaierai de voler le plus longtemps possible parce que c'est évidemment quelque chose qui fait partie de ma vie maintenant et pour longtemps, j'espère.
Donc, pendant combien de temps tu as exercé justement pilote, mais dans le privé ?
Alors moi, j'étais effectivement dans l'aviation d'affaires. J'ai commencé dans une grosse boîte d'aviation d'affaires qui s'appelle toujours NetJet. Et je l'ai fait en cumulé dans toutes mes expériences un peu plus de 4 ans. Et chez NetJet, il y a eu la crise financière, on avait beaucoup de traders comme clients. Donc
Donne-nous des anecdotes justement de tes clients sans les nommer.
J'ai eu beaucoup, je crois que j'ai fait à peu près tout le monde du cinéma, du football, le monde politique.
Loufoque lors d'un vol.
J'ai eu beaucoup de demandes loufoques. J'ai eu beaucoup de demandes loufoques sur les alcools, sur parfois les accompagnements. Non, on avait quelques clients de l'Europe de l'Est qui aimaient beaucoup boire. Mais dans des proportions qui étaient quand même inquiétantes par individu transporté dans l'avion, et qui est donc régulièrement malade. J'ai eu des trucs marrants, mais je me souviens d'une rencontre avec une actrice, Monica Bellucci, que j'avais trouvée incroyablement belle et charismatique. Donc c'est peut-être ça, moi, qui m'a, à titre personnel, le plus marqué. Mais non, c'était très intéressant. Puis dans l'aviation d'affaires, c'est vrai que comme pilote, on a un contact direct avec les clients, donc c'est vrai que c'est un peu différent de l'aviation classique. Alors, aujourd'hui, on critique beaucoup l'aviation d'affaires, mais...
C'est un autre sujet. Et après, tu as eu un virage dans la vie politique. Tu as été député 2 ans et demi et au gouvernement 3 ans. Pourquoi ? Pourquoi la politique ?
Bon, d'abord, moi, j'ai une famille qui, j'en parlais un tout petit peu au début, mais qui a toujours été férue de la chose politique. On parlait beaucoup politique chez moi, petit. Je suivais beaucoup l'actualité politique. J'avais une grand-mère qui est toujours une grand-mère, mais qui a été à l'époque... très engagé au Parti Socialiste et qui était au niveau national, auprès d'ailleurs du jeune Mélenchon qui arrivait à l'époque. Donc vraiment la politique chez moi, c'était, j'avais un intérêt. Mais j'étais pas encarté. Et vraiment, quand j'ai rencontré un peu par hasard ce jeune ministre qui arrivait à Bercy et qui s'appelle toujours Emmanuel Macron, mais qui était à l'époque tout juste arrivé fraîchement au ministre de l'économie, je montais à l'époque un projet de compagnie aérienne régionale. Et c'est vrai que j'avais trouvé qu'il était un peu différent. Il m'avait un petit peu mis le pied à l'étrier avec des contacts avec son cabinet et d'autres acteurs pour financer notamment les avions. Et je l'avais trouvé très au fait de la nouvelle économie, très, très curieux sur la technologie et les modèles d'affaires. Donc j'avais gardé ce contact-là avec lui, son environnement, son entourage. Et puis j'avais participé à la campagne en 2017, un peu, avant de repartir faire autre chose. Et puis à un moment, s'est posé la question de se présenter aux élections. Et c'est vrai que je me suis présenté pensant ne pas être élu. J'ai été élu. Puis après, effectivement, député. J'ai eu la chance d'avoir des textes importants, la réforme de la SNCF. Et donc, petit à petit, de creuser mon trou, en quelque sorte. Et puis ministre pendant 3 ans. Donc, c'est évidemment une expérience incroyable. Et je ne le regrette pas du tout. Parce qu'évidemment, la politique, c'est un engagement citoyen, personnel, intense. Mais on sent qu'on peut être utile aussi. Donc, c'était une expérience fabuleuse.
Eh bien, justement, quand on est en politique, on sert la République et on est véritablement donc au cœur du réacteur. Est-ce que c'est là où tu t'es senti le plus utile ?
En tout cas, je me suis, c'est sûr, senti utile. Parce que d'abord, ce ministère des Transports, c'est un ministère que tous les Français connaissent, parce que c'est la vie quotidienne. Parfois, c'est les grèves, mais c'est aussi l'écologie, c'est aussi la vie industrielle du pays. Il y a beaucoup de grands groupes que les Français connaissent évidemment par cœur, la SNCF, la RATP et tant d'autres. Ou dans l'aéronautique, Airbus, Safran, enfin bref, de très grands noms. Et j'ai trouvé ce ministère passionnant. Et en plus, j'ai eu la chance, entre guillemets, de vivre des crises. Et quand vous vivez des crises, évidemment, le politique est en première ligne et il faut savoir saisir ces opportunités pour faire des choses utiles. Donc à la fois amortir les effets des crises, relancer l'économie et ce secteur, c'est ce qu'on a réussi à faire. Donc moi, j'en tire beaucoup de fierté personnelle et puis j'ai appris énormément de choses. Donc c'est toujours ce qui compte dans la vie, c'est de pouvoir être utile et de progresser.
Parmi toutes tes rencontres, laquelle t'as le plus marqué, inspiré ?
En politique ?
Durant ces 5 ans, mais aussi même avant ?
Non, bah alors, enfin...
Il y a toujours parfois une personne qui nous marque.
Ouais, quelques personnes dans mon cas, mais en fait, quand vous êtes en politique, vous voyez tout le monde, plein de gens, et vous voyez évidemment tout le temps des gens intelligents. Après, vous voyez aussi certaines personnes, et c'est pas tout le monde, qui ont des visions pour leur entreprise, leur association, une compréhension du monde particulière. Et puis après, vous avez, en plus de ça, des gens intelligents qui ont une vision, certaines personnes qui sont en capacité d'exécuter et d'être des très grands patrons ou des citoyens très engagés ou des hommes politiques français ou internationaux éminents. Et moi, j'ai rencontré récemment quelques personnes comme ça qui m'ont impressionné pour toutes ces raisons-là, dans les grands patrons, Rodolphe Saadé, le patron de la CMA-CGM, ou Alexandre Bompard de Carrefour, ou des gens moins connus et moins devant, mais par Maud Bailly, par exemple, qui est numéro 2, qui s'occupe de l'Europe du Sud-Est de l'Est chez le groupe Accor. Enfin, des gens comme ça qui sont extraordinairement, évidemment, brillants, mais qui ont beaucoup de force, beaucoup d'énergie, beaucoup de vision, qui voient loin. Et puis plein d'autres gens. Donc je retiens cette variété de personnes très intéressantes. Et puis parfois, effectivement, il y a, en tout cas, tout le temps, il y a des choses à glaner ici et là, des clés de compréhension du monde, des conseils, des anecdotes.
Quel est le meilleur conseil que l'on t'ait ?
Alors le meilleur conseil qu'on m'ait fait, en fait, c'est pas un conseil, mais c'est quelque chose que j'avais retenu, je pense, d'un prof en maths sup, qui était un prof de maths. Et je ne sais plus quel élève lui demandait comment on fait pour être bon en maths, monsieur. Et il avait répondu, en fait, au fond, pour être bon en maths, il faut travailler beaucoup, avoir un peu d'expérience et développer de l'intuition. Et évidemment, ça s'applique aux maths, mais ça s'applique à tout dans la vie. Et moi, j'ai appris qu'en ayant effectivement, en travaillant beaucoup tout le temps, en essayant d'apprendre au fil du temps et donc d'avoir de l'expérience, et puis en ayant parfois, en faisant des choix, des guts, comme on dit, ou des, voilà, des choix intuitifs dans la vie, ça c'était un bon cocktail. En tout cas, moi j'ai l'impression que c'est mon bon cocktail pour avancer dans la vie, être utile et faire des choses intéressantes.
Tu as plus 1 million d'abonnés sur TikTok. Ça, je vois bien que j'ai mes consoeurs et confrères qui te posent souvent cette question. Pour toi, c'est un moyen forcément de faire passer des messages sans te prendre au sérieux. Est-ce que pour toi, c'est l'une des meilleures manières justement de sensibiliser ?
Moi, je pense d'abord qu'il faut communiquer comme on est et que ça ne sert à rien d'essayer d'adopter deux choses. D'abord, quand c'est insincère, ça se voit en politique plus qu'ailleurs. Et deuxièmement, si vous communiquez sur un réseau, il faut le faire selon les codes du réseau. Et donc Twitter, c'est pas... Bon, Twitter, c'est quand même le fight, le clash en permanence. C'est pas super intéressant, mais Twitter, pour un homme politique ou un responsable, c'est un peu son agence France-Presse à lui, quoi. Donc, il donne des infos. Mais c'est pas très intelligent, c'est pas très marrant, et c'est beaucoup des clashs de communautés. Instagram, c'est un peu différent, mais c'est un peu le fan club. Donc, c'est des belles photos, et puis il faut produire beaucoup de contenu pour avoir de l'audience. Et c'est vrai que quand t'es homme politique ou femme politique, prendre le temps de faire beaucoup d'Insta, c'est compliqué. En revanche, TikTok, c'est très viral.
C'est toi véritablement qui fais tes propres montages ou c'était tes équipes?
Bon, un peu des deux. Voilà. En ce moment, c'est moi, et puis on avait une équipe évidemment, mais ça dépend. Et puis on réfléchissait vraiment à trois sur ce qu'on voulait passer comme message, sur le format. Et puis parfois, on se censurait les uns les autres en disant ça va trop loin, là, c'est pas marrant. Là. Bref, c'est toujours un travail collectif, de toute façon, la vie en général.
Mais et tu es libre en tant que ministre par rapport au président, justement?
Mais tu prends cette liberté. Enfin, moi, j'ai appris quelque chose dans la vie. C'est que, d'abord, on n'est comptable que de sa propre vie. Et quand on essaie de faire des choses utilement, bah, parfois, il faut être un peu transgressif.
Tu peux nous révéler un échange entre toi et Emmanuel Macron à ce sujet?
Parce
que vous êtes de la même génération.
Non, mais je pense qu'effectivement, c'est quelqu'un qui a bien compris comment fonctionnaient les réseaux sociaux. Sur TikTok, je peux révéler ça. C'est qu'un jour, je lui avais proposé effectivement de faire un TikTok commun, qui était pas mal d'ailleurs. Et puis finalement, ça s'est pas fait parce que c'était la campagne, il fallait pas tout mélanger. Mais ça aurait été, ce TikTok était marrant et il aurait été marrant. Mais en fait, TikTok, pourquoi? C'est qu'effectivement, ça permet, si on a un peu de dérision par rapport à soi-même, et puis si on a envie de passer des messages à une communauté plus jeune, et TikTok, de fait, c'est plus jeune, ça permet de certainement trouver un canal en s'appropriant un peu les codes qui est plaisant à faire, parce que moi je m'amuse en faisant les TikTok. Et puis évidemment, je vois bien que dans la rue, pas mal de jeunes me connaissent, donc c'est plaisant d'entretenir ce contact-là. Parce qu'à la fin, c'est pas le fait d'avoir 1 million ou je sais pas quoi, c'est le fait d'avoir un contact réel, que TikTok permette un contact réel avec des gens réels dans la rue réelle. Ça, c'est intéressant.
Et si tu devais choisir aujourd'hui entre l'aviation et la politique? On oublie Opium pour le moment, on reste encore sur l'aviation.
Non, mais je pense que vraiment l'aviation, ça, c'est ma vie, c'est une partie de ma vie, c'est ma formation, ça a été mon premier métier. C'est une école de l'humilité aussi, parce que vous êtes toujours faible dans un avion, les éléments sont plus forts que vous, tout va vite, c'est aussi un travail en équipe. Donc vraiment, je pense que l'aviation, moi, c'est ce qui m'a formé, intimement formé, et au-delà même de l'activité aéronautique. En revanche, la politique, ça dépend de ce qu'on entend par la politique comme l'action publique, comment mettre en marche la société, comment transformer le monde, ça m'intéressera tout le temps et c'est ce que j'essaie de faire aujourd'hui chez Opium. Je vais dire que je fais de la politique, je fais de l'entreprise, mais fondamentalement le sujet c'est faire la transition énergétique d'un mode de transport qui pollue beaucoup, etc. etc. Donc il y a toujours une dimension d'intérêt général, je crois, dans ce que je fais, qu'elle soit dans le monde public ou dans le monde privé. C'est moi ce qui m'anime, j'essaie de changer un peu les choses à mon humble niveau et avec ce que je sais faire.
Par rapport à ce que tu connais du dérèglement climatique, on a vu aujourd'hui que l'aviation d'affaires n'a pas bonne presse. Qu'est-ce que tu réponds? Tu défends ou tu t'inclines?
Non, je ne m'incline pas. Je pense que d'abord, je pense plusieurs choses. Je pense qu'il faut toujours revenir aux faits. Et moi, tu l'as dit, j'ai été ministre des Transports. Et ce qui pollue le plus dans les transports, c'est les transports terrestres. Et pour 50%, enfin, toutes les émissions de transport, si on les prend, 50%, c'est les véhicules légers. Donc moi, tu vois, mon activité de maintenant, ça consiste à transformer 50% des émissions. Donc quand on veut faire de l'impact, comme tu aimes à le dire, on s'attaque aux choses les plus grosses et on essaie d'être efficace pour qu'effectivement en 2030, on ait une partie du parc qui ait été changée. Ça, moi je refuse d'être dans ceux qui d'ailleurs, honnêtement, parfois sont anxieux sans essayer eux-mêmes de changer vraiment les choses autrement qu'en criant dans la rue. Et moi je pense que la transformation, elle est humaine, c'est parce que des gens s'engagent, alors parfois ils alertent, mais on doit faire. Et fondamentalement, moi je suis un faiseur et je ne veux pas me retourner dans 50 ans en ayant eu peur pendant 50 ans et en n'ayant rien fait. Et donc moi, j'essaie de le faire. Ensuite, l'aviation, on a une chance incroyable à l'échelle de l'aviation dans sa globalité, c'est qu'on a des leaders mondiaux partout dans notre pays. On a Airbus, on a Safran, on a Thales, on a Dassault et tant d'autres. Et donc l'aviation, on peut la changer. Nous, les Français, on a peu d'impact sur le monde aujourd'hui. Mais dans l'aviation,
tu comprends
on a
que
un impact.
Ça puisse aujourd'hui choquer l'aviation.
Et après, il y a l'aviation d'affaires, et j'y viens. L'aviation d'affaires, c'est symptomatique ou symbolique, en quelque sorte, de l'accroissement des inégalités. Et en fait, c'est ça, au fond, le sujet. Moi, je pense que si on arrive à faire une aviation plus verte, et encore une fois, je pense qu'on est en capacité de le faire, c'est très bien. Et objectivement, les émissions de l'aviation d'affaires, c'est epsilonesque par rapport à ce qu'on s'est raconté juste avant. En revanche, on a un sujet singulier dans ce pays qui est autour de la perception, pas que de la perception, la réalité de la richesse, de l'accroissement des inégalités. Et ça se résout, non pas en tapant comme des sourds sur un secteur, mais ça se résout par l'impôt, ça se résout par l'engagement des uns et des autres à faire changer le monde. Donc, voilà, moi je pense que c'est...
Il n'a pas totalement répondu à ma question.
Non, j'ai répondu, mais si le sujet... Moi, je suis pour qu'on partage équitablement la richesse qui est produite. Et je suis pour que ceux qui aient des moyens contribuent plus que les autres. Et je suis pour une approche qui consiste à dire on va transformer technologiquement l'aviation ou les voitures, qu'on ait des voitures propres et pas polluantes, plutôt que continuer à hurler au loup. Être anxieux ou hurler au loup, ça n'apporte aucune solution. En tout cas, moi, j'ai envie de me dire qu'à la fin de ma vie, quand je ferai le bilan, je n'ai pas hurlé au loup, mais j'ai apporté modestement des solutions concrètes et que possiblement, en plus, ça a renforcé le pays, la France, qu'on a créé des emplois ici et que tout le monde... Enfin, dit différemment, arrêter de vivre, organiser la décroissance, c'est inévitablement dans un monde global devenir faible. Et quand on est faible, on n'a plus d'impact sur les choses. Et par ailleurs, la pauvreté généralisée, on a déjà connu dans certains pays, ça ne donne jamais des bons systèmes politiques et ça ne donne jamais de la stabilité politique et sociale. Donc voilà, moi je suis lucide sur tout ça aussi.
Aujourd'hui, tu présides Opium, donc on le rappelle, le constructeur automobile français qui, donc tu l'as dit, a dévoilé sa première voiture au Salon mondial de l'auto. Une voiture qui va avancer grâce à l'hydrogène. C'est quand même assez méconnu, cette molécule. En plus, il y a la question de la production d'hydrogène. Est-ce que c'est une hydrogène verte, grise ? Mais au Salon, par exemple, quelle est la question qu'on t'a le plus posée, justement ?
Alors, les questions qu'on m'a le plus posées, c'est quand est livrée la voiture, donc c'est fin
2025. Voilà,
comment
mais c'est quoi l'hydrogène, voilà.
C'est quoi l'hydrogène et est-ce que c'est dangereux ? C'est les questions qu'on m'a le plus posées.
Est-ce que ça va exploser aussi ?
Donc du coup, la réponse est non. Est-ce que ça ne va pas exploser ? C'est vrai qu'on est, enfin, en tout cas, la génération peut-être d'avant, ou les générations d'avant sont marquées par quelques grands accidents, 1927-29. Et effectivement, à l'époque, ces technologies étaient moins maîtrisées que maintenant. Mais aujourd'hui, quand vous sécurisez... D'abord, vous avez 50 000 véhicules dans le monde qui roulent à l'hydrogène. Et quand vous faites l'homologation, la certification des réservoirs, vous faites tomber des masses de 5 tonnes dessus. Enfin bref, vous pouvez monter demain dans un taxi Hype qui circule à Paris à l'hydrogène. Il n'y a absolument aucun danger. En tout cas, pas plus que pour tous les autres modes de transport. Et c'est parfaitement maîtrisé aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que la voiture à hydrogène ? C'est simple. Aujourd'hui, donc, si on veut aller vers des véhicules propres, on pense que ces véhicules seront électrifiés, donc soit avec une batterie électrique, soit avec un système de piles à hydrogène. Et comment ça fonctionne l'hydrogène ? Bon, l'hydrogène, c'est la molécule la plus abondante de l'univers, dans le Soleil et ailleurs. Mais seulement, il faut la fabriquer sur Terre, parce qu'elle n'est pas elle n'est pas présente à l'état naturel. Donc on la fabrique essentiellement en cassant la molécule d'eau, H2O, on récupère H2, la molécule d'hydrogène. C'est un gaz, et on met le gaz dans la voiture. Une fois qu'on a mis le gaz dans la voiture, dans les réservoirs, ça va dans un système de piles à hydrogène qui transforme en gros l'hydrogène par échange gazeux en électricité. Et cette électricité, vous le renvoyez dans un moteur électrique et ça fait avancer la voiture. Et la beauté de la chose, c'est que ça ne rejette que de la vapeur d'eau. C'est là où l'hydrogène est particulièrement efficace. Et c'est pour ça que nous, on pense que c'est une technologie qui a énormément d'atouts.
Est-ce que c'est comme ça que tu expliques à tes enfants?
Alors, ils sont encore un peu jeunes. Ils sont encore un peu jeunes, cela dit, ils connaissent maintenant les voitures à hydrogène. Pour eux, une voiture est à hydrogène. Donc, donc ils sont un peu endoctrinés dès leur plus jeune âge. Mais oui, c'est toujours...
C'est bien, ils vont passer quand même de l'avion à la voiture.
Exactement. Ils aiment aussi beaucoup l'avion, et notamment les vieux avions. En tout cas, ils aimeront la mobilité, ça c'est sûr. Ou alors, j'aurais loupé ma vocation. Et non, je pense que c'est important, effectivement. C'est des sujets qui sont compliqués quand on rentre dans le détail et tout le monde se bat sur des chiffres. Il faut l'expliquer calmement. Et je pense qu'en plus, c'est une chance incroyable pour la France que d'être des leaders. Parce que dans le secteur de l'hydrogène, tu l'as dit, on peut le produire, le fabriquer, le transporter, le distribuer, avoir des véhicules, des cars, des avions, des trains. Et donc, demain, beaucoup de voitures. Et c'est une chance pour le pays parce que ça s'exporte et puis ça permet de reconstituer certains avantages compétitifs qui ont été les nôtres il y a 100 ans et qui ont vocation à redevenir français.
Et donc, et d'ailleurs, toi, tu roules en quoi
quand Et d'ailleurs, moi je, roule, alors, moi, je roule en plein de choses. Je roule en trottinette, en métro, en voiture. D'ailleurs, je vais passer bientôt à la voiture électrique. En voiture pas électrique et pas française. Donc là, c'est double échec. Mais je passe bientôt en voiture électrique et ou hybride, d'ailleurs, on verra. Et française, ça c'est sûr. Et puis, bien sûr, bientôt en opium. Donc en voiture à hydrogène française. Mais moi, je suis le bon exemple du type qui fait du vélo, de la marche, de la trottinette.
Et du rugby aussi.
Et du sport. Et du rugby, ouais.
Comment tu arrives à gérer, c'est une question que je pose à tous mes invités, pour gérer ta vie perso, ta vie familiale et cette vie pro qui est
Alors moi,
super
j'ai
bien.
Deux ingrédients d'oxygénation. Le premier, c'est le sport. Donc je fais pas mal de sport, depuis tout jeune, enfin je le disais, on est une famille sportive, on a toujours été éduqués un peu là-dedans, il y a beaucoup de discipline dans le sport, et donc je fais encore un peu de rugby, je fais de la boxe, j'ai découvert la boxe, c'est incroyable, je conseille tout le monde, et d'ailleurs je fais un petit bonjour à Boxium, avenue de la Bourdonnais, des gens incroyables.
Là où tu t'entraînes parce que
Là où je m'entraîne, exactement, et famille Sissoko, incroyable, enfin bref, allez-y nombreux, enfin ils sont déjà plein, mais allez-y nombreux. Et la boxe, c'est un sport incroyable de discipline aussi. Et puis, donc premier ingrédient, le sport. Deuxième ingrédient, les cocktails avec mes potes. J'avoue que c'est le deuxième ingrédient de ma stabilité personnelle. Et d'ailleurs, y compris pendant la poétique, j'ai gardé la même bande de potes. Et donc, j'aime les cocktails, je confesse ce vice éternel, je crois.
Et un endroit où tu aimes, excuse-moi le jeu de mots, recharger tes batteries?
Alors ça, c'est indéniablement le Limousin. C'est pas mal. Indéniablement le Limousin, Saint-Laurent-sur-Gorre, chez ma grand-mère. C'est là d'ailleurs aussi où j'ai été élu. C'est le berceau de ma famille maternelle. Et fondamentalement, c'est ma grand-mère que j'adore et auprès de qui j'apprends toujours beaucoup. Donc s'il y a un endroit dans lequel j'aime bien être et m'isoler et parler et partager, c'est évidemment bien là-bas avec ma grand-mère.
Et quand tu es à la maison, on a déjà reçu des chefs dans ce podcast. J'ai eu deux invités, Simone Zanoni et Juan Albaré. Bon, Juan, désolé.
Et Simone, je l'adore. Hein, il est incroyable. Simone, on doit d'ailleurs faire des choses ensemble bientôt, il le sait.
Vous avez une belle énergie tous les deux, ça ne m'étonne pas. Tu es plutôt à cuisiner ou à commander?
Alors moi, je plaide coupable, je suis 100% à commander. Je suis le meilleur client, je crois, de Deliveroo et consorts. Et donc, c'est mal, je sais, mais en même temps, ça permet aussi à... Voilà.
C'est ton plat préféré?
Mon plat préféré, je dirais que c'est le Black Cod Miso avec des champignons portobello. Je dis ça parce que c'est ce que j'ai mangé il y a deux jours et que j'ai adoré ça. Et que je prends souvent ça quand je vais là-bas. Mais non, j'ai pas de plafond. J'aime bien un peu tout. Je suis pas encore vegan, végétarien. Je sais que j'ai du progrès pour satisfaire tes critères.
Et sur ta table de chevet, qu'est-ce que l'on retrouve actuellement?
Alors actuellement, j'essaie péniblement de finir une bio de Kissinger. Très intéressante d'ailleurs. Géopolitique. Bon. Et puis la bio est intéressante parce que le type a vécu plein de choses, évidemment, pendant la résistance et enfin, en tout cas l'occupation nazie. Mais d'une manière générale, j'ai pas mal de livres. Alors ma mère m'offre plein de BD sur la politique. Mais moi, il y a quelques livres qui m'ont accompagné ces dernières années. Il y a un livre, tu veux que je te dise, qui m'a accompagné ces dernières années.
Vas-y.
Non, mais je pense qu'à titre politique, ce qui m'a vraiment le plus marqué, c'est un livre que j'avais lu il y a longtemps qui s'appelle.
Quand t'étais ado, hein.
Ouais, non, mais justement, je l'ai relu récemment, mais je l'avais lu jeune et j'avais d'ailleurs pas du tout compris la même chose. C'est un livre de Tocqueville qui s'appelle L'Ancien Régime et la Révolution. Et en fait, je l'ai relu en politique et j'avoue que j'ai vu et recompris à nouveau pas mal de choses. C'est un livre absolument passionnant et qui décrit grosso modo l'Ancien Régime et donc qui démontre assez bien, illustre assez bien les fragilités de ce régime politique. Et à bien des égards, ça peut ressembler à la fragilité de notre régime politique maintenant. Après, à titre personnel, il y a un bouquin que je te conseille qui s'appelle Le Loup des Steppes, qui est un bouquin d'un romantique allemand. Et c'est un bouquin qui est absolument génial. C'est l'histoire d'un... Enfin, moi, que je trouve génial. Qui peut paraître au début un peu désabusé, un peu triste. Qui parle de la vie d'un type qui est un peu partagé entre son isolement et sa vie sociale un peu mondaine, un peu bourgeoise. Et c'est absolument incroyable, parce que c'est aussi un peu féerique, c'est aussi un peu, non pas fantastique, mais il y a beaucoup de positivité. Ça démarre pas très bien, puis ça devient très positif. Donc c'est le sens de la vie, j'imagine.
Et le mien, ce serait L'Alchimiste de Paulo Coelho?
Ah, je l'ai pas lu.
Tu n'as pas lu ce blockbuster?
Tout le monde en parle, mais pas que
c'est... Ce best-seller, ouais. Pardon.
Ouais.
Exceptionnel, un peu de spiritualité et toujours en quête, c'est très positif.
De sens, ouais.
Quête de sens, un cadeau d'ailleurs peut-être à t'offrir. C'est quoi tes futurs projets?
Alors, d'abord, essayer effectivement de porter Opium au succès, parce que maintenant, il y a quand même beaucoup d'enjeux pour nous, industriels, et c'est important pour notre pays que de reconstituer, encore une fois, des forces dans l'industrie automobile renaissante.
Une vidéo avec Simone.
Une vidéo avec Simone, on doit la faire.
Et tu embrasseras
de évidemment. Et puis moi, ce qui m'excite, entre guillemets, dans la vie sur le... Ce qui m'excite dans la vie sur le plan professionnel, c'est évidemment la technologie et puis développer des choses utiles à vocation internationale. Donc moi, je m'intéresse beaucoup au sujet de la fusion nucléaire, je m'intéresse aux nouveaux avions supersoniques, je m'intéresse à pas mal de sujets comme ça.
L'espace aussi, ça te fascine ?
À l'espace, beaucoup. Quelques projets là-dessus. Donc voilà, je réfléchis. Puis après, il faudra voir les voies et moyens, comme on dit pour y arriver. Mais la technologie... Le rayonnement français.
Comment vous allez faire justement faire rayonner Opium? Dis-toi, en 2025, les premières voitures vont sortir depuis la Normandie, c'est bien ça?
Oui, absolument. On a un site à Douin, donc près de Vernon, qui a vocation à accueillir l'industrialisation des véhicules. Et on a déjà commencé à faire rayonner la marque, en quelque sorte, puisqu'on a un prototype qui tourne, on a un véhicule qui a été présenté, qui est quasiment fini à l'intérieur et à l'extérieur. Beaucoup de gens sont venus, je ne sais plus combien de gens, combien de gens on a fait visiter le véhicule, mais il y a eu une très grande...
J'ai eu la chance de la visiter.
Bah voilà, donc je pense que tu as pu apprécier peut-être le véhicule. Et puis on pense qu'au-delà du projet, c'est effectivement une façon pour la France d'être en reconquête industrielle. Donc comment on fait rayonner? Bah d'abord, il faut continuer à avoir les moyens de notre ambition, donc lever des fonds, industrialiser, être au rendez-vous de nos objectifs calendaires, les horizons de temps, et puis rencontrer le public. Ça, c'est vraiment important. Et faire d'Opium une marque française, européenne, internationale, c'est évidemment l'enjeu. Et puis, susciter l'adhésion. Tu parlais tout à l'heure de... Il y a aussi un peu d'aviation bashing, de voiture bashing. Moi, je pense qu'on peut ressusciter l'adhésion avec un produit très français, en prenant une liberté et en faisant la transformation de ces modèles vers des objets de mobilité qui soient beaucoup plus respectueux de l'environnement. C'est ça, enfin, notre grand sujet, notre grand challenge à tous.
Et pour terminer ce podcast, l'une des questions les plus difficiles, ta raison d'être personnelle.
Je pense que ma raison d'être personnelle, c'est de me dire que le jour où tout ça se sera fini, où j'arriverai au bout de mon passage sur Terre, ça aura été un passage joyeux et utile pour mes proches et pour la société. Si j'arrive à faire ça, alors je vous quitterai serein et satisfait, je pense. Enfin, c'est en tout cas ce qui m'anime.
Tout de suite.
J'espère pas. Et je touche du bois. Non, mais j'essaie de me dire que c'est dans longtemps et que j'ai un peu de temps pour faire. Mais fondamentalement, le jour où ça s'arrête, si je me dis ça, alors j'aurai réussi ce petit pari terrestre.
Bien, écoute, merci infiniment, Jean-Baptiste Djebari, d'avoir répondu à mes questions et puis d'avoir partagé ton expérience et tes anecdotes à tous nos auditeurs. Merci infiniment.
Merci à toi.
Et nous, on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous. Merci.